Était dit, on est au mois de juillet, il va y avoir personne. Et ben non, c'est raté. Ah Jésus, je vais partager un témoignage avec vous avant de commencer. Je voulais pas le faire et puis je sais pas là, avec ce qui s'est passé, le Seigneur m'a demandé de le faire. Au début je voulais, et après je voulais plus, et là maintenant. Je vais juste vous partager un petit témoignage parce que on a beaucoup parlé de l'amour de Dieu ce matin, et c'est d'ailleurs, je vais parler aussi de l'amour ce matin. Mais voilà, je voulais juste vous partager ce témoignage. Quand on est allé au mois d'août à la conférence de Sandra Duby là-bas, j'avais reçu une parole de prophétie, et celle qui a prié pour moi, elle me dit, le Seigneur cette année va faire tomber des murs dans ta vie, parce que tu as dressé comme des murs de protection. Et Dieu veut faire tomber ces murs. Est-ce que tu es d'accord? Mais ça peut faire mal, mais est-ce que tu es d'accord? Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, je sais qu'il y a des murs. Et je suis d'accord, Seigneur, pour les faire tomber. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et je peux vous dire que quand on a commencé la formation, je disais à Josette, j'étais pas bien, en fait, j'étais pas bien. D'abord parce que j'avais peur, justement, de qu'est-ce qui allait se passer, parce que des fois, y a des personnes qui sont pas tendres quand elles vous parlent, ou voilà. Et puis quand on a commencé, sur le coup, j'ai dit à Josette, mais c'est quoi ça? Je vous le dis, hein, comme je l'ai pensé, hein, comme je l'ai vécu, on est dans le monde des bisounours. Mais cette femme, elle est parfaite. Et moi, mais je ne suis pas parfaite. Elle fait tout bien. Elle a toujours tout fait bien. Mais non, en fait, hein, elle ne dit pas tout. Elle ne dit pas la vie qu'elle a... les épreuves qu'elle a dû traverser pour en arriver là où elle est. Mais nous, quand on est avec nos manquements, nos fautes, notre vie, quand on se dit, moi, quand je me suis convertie, je voulais être parfaite. Je voulais être parfaite. Je voulais être tout bien. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et des fois, on porte sur notre dos des fardeaux et des regrets. Et le Seigneur, il nous construit, il nous transforme. Et merci Seigneur parce qu'il a toujours été là. Et donc j'étais là avec, j'avais deux choses dans ma vie qui pour moi me pourrissaient la vie et qui étaient comme un, malgré tout ce que je pouvais faire autour, mais chaque fois que je revenais devant Dieu, j'avais comme cette chose-là qui, je disais Seigneur, il y a plein de choses que j'aurais voulu bien faire et j'ai mal fait. Et ma vie, tu vois, j'ai peur que d'avoir tout mal fait. Même si j'ai une super famille, des super enfants, un mari super. Mais je disais, j'ai un fils qui n'est pas converti. J'aurais voulu que les choses elles soient toutes bien. Vous savez, j'avais mis la barre plus. Et puis quand Audrey a été malade, j'aurais voulu qu'elle soit guérie. J'aurais pas voulu qu'elle meure et que les petits se retrouvent maintenant là. Et non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, j'avais l'impression que ma vie, c'était comme un château de cartes. Et ça venait tout le temps. Et je disais, Seigneur, si ça se trouve un petit truc, un petit grain de sable, ça va tout écrouler. Et un jour que j'étais en prière et que j'étais à genoux devant le Seigneur et que j'avais passé du temps avec le Seigneur, j'ai dit, parle-moi, Seigneur. Et là, c'est venu, mais vous savez, comme quand c'est comme quelque chose qui vient pour vous, qui vous percute. Mais non, Isabelle, tu as bâti ta vie sur le roc. Tu t'en rends pas compte, mais tu as bâti ta vie sur le roc, sur Jésus. Et c'est venu me percuter. Et là, j'ai dit, Satan, c'est fini. Plus jamais tu me feras croire que ma vie, elle tient qu'un fil. Non, j'ai bâti ma vie sur le roc, sur Jésus. Tout ce que j'ai fait, en fait... Je suis toujours revenue au pied de Jésus et j'ai toujours dit, Seigneur, mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais? Et pour vous dire que ça a percuté mon esprit, c'est que Un jour que j'étais dans mon jardin, Jean-Pierre est en train de refaire le mur de clôture, donc c'est tout ouvert. Enfin, on voit les gens passer, et là je vois un couple de noirs qui allait dans la maison du fond que je ne connaissais pas, mais bon, voilà. Et puis je vois que la femme, elle s'arrête et elle me dit Ah, vous avez une belle maison. Le monsieur me dit Vous avez un beau jardin, tout ça. Et je dis Oui, vous avez des belles plantes, oui, j'aime bien jardiner, tout ça. Puis la dame me fait Vous savez qu'il y a toujours un esprit, il y a toujours quelqu'un qui bâtit la maison. Et là, je lui dis Oui. J'ai dit Oui, je sais. Moi, j'ai bâti ma maison sur Jésus. Et là, j'ai commencé à parler que Jésus avait toujours. Mais ça sortait comme un flot. En fait, on ne pouvait pas m'arrêter. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Jésus a toujours été là. C'est lui qui m'a porté dans les bons, dans les mauvais moments. Enfin, j'ai parlé. Après, j'ai compris que c'était des témoins de Jéhovah, parce que je les reconnais. Puis là, elle recommence son moulin à paroles parce qu'ils ont comme des leçons qu'ils ont un peu appris par cœur. Et lui, ce jeune-là, il regardait ça. Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est beau ce que vous dites ! Waouh ! Et j'ai vu que quelque chose s'était passé dans sa tête parce qu'il a dû se dire, mais là, il y a quelque chose du vécu. Et donc, j'ai donc vécu ça. Ça a été une première victoire dans ma vie parce que je peux vous dire que maintenant, l'ennemi ne vient plus m'embêter avec ça. Et la deuxième victoire, il y a à peu près 24 ans de ça, j'ai reçu une parole prophétique et dans cette parole, entre autres, ça disait, Dieu me disait, je t'aime, je ne peux pas me donner la raison pour laquelle je t'aime. Quoi qu'il en soit, je t'aime, je t'aimerai toujours. Ok. Vous savez, on a l'habitude d'entendre ça. Et là, dernièrement, alors que j'avais écouté un message, c'était Jérémy Potin qui parlait de notre relation avec le Saint-Esprit. Tout ça. Et là, c'est pareil, j'ai reçu, ça m'a percuté là aussi, l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, on ne peut rien faire si on ne se sent pas aimé de Dieu. On ne peut rien faire. Et là, le Seigneur, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans Jérémie 29, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est quand Dieu dit à Israël qu'il l'aime, sans condition, quoi qu'elle fasse, que tout le temps il l'aimera. Et c'est là qu'il y a comme cet échange d'amour avec, comme l'époux et l'épouse, vous savez, où à un moment donné, Dieu dit, maintenant c'est toi qui vas venir me chercher, c'est à cet échange. Et là, j'ai percuté, là j'ai reçu vraiment que Dieu m'aimait. Il m'aimait, même si je n'avais pas toujours été parfaite, même s'il y avait des choses que dans ma vie que j'aurais voulu pouvoir effacer. Dieu m'aimait, Dieu m'aime, il me relève, il est là tout le temps. Il est là, il m'aime, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Et la culpabilité maintenant, ben c'est pareil, je dis, c'est bon. J'ai assez soupé de la culpabilité. Et je dis, Seigneur, maintenant ma vie, elle est toute dans tes mains. Donc c'est ce que je voulais vous partager par rapport à ce témoignage. Et tout ça, avant de vous parler de l'amour, ben, il y a l'amour de Dieu. On sait, la preuve, hein, c'est que Dieu nous aime. Dieu aime ses enfants. Il ne nous a pas créés pour nous faire mourir. Il nous aime. Il veut qu'on vive. Il veut qu'on soit sauvés. Dieu nous aime. Et là, j'ai dit, ben, alors qu'est-ce qu'on fait avec cet amour que le Seigneur nous a donné ? Et c'est là que je voulais en venir à « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et souvent, je me disais, mais c'est quoi aimer ton prochain ? Je dis, tu sais, Seigneur, c'est facile, j'aime ma famille, j'aime mes enfants, je vous aime, j'aime les gens que je connais, j'aime les proches. Mais mes voisins qui sont à côté, je les vois une fois de temps en temps, ouais, je vais les inviter, peut-être on va partager un repas, tout ça, mais c'est dur de les aimer, en fait. Je ne sais pas vous, mais il y en a des fois, ça ne m'attire pas du tout, quoi, j'ai pas envie. Hein, je ne sais pas comment vous êtes fait, mais moi c'est comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Comment tu veux qu'on aime? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que c'est? Alors moi, je pars d'un principe. J'ai toujours parti de ce principe-là dans ma vie. Quand le Seigneur m'a reprise pour quelque chose, je pars toujours du principe que c'est Dieu qui a toujours raison. Et que si moi, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, qui me choque ou quoi, ce n'est pas Dieu qui a tort, c'est moi qui n'ai pas compris. Je pars de ce principe-là. Sa parole, elle est la vérité. Dieu, tu as toujours raison. Parce que je sais que moi, j'ai un tout petit cerveau et je ne peux pas cerner Dieu, je ne peux pas l'enfermer dans ma boîte. Je ne veux pas le voir que à ma hauteur, à moi, avec mes yeux à moi. Moi, je suis un être humain. Je ne comprends pas tout. On ne comprend pas tout. Je ne sais pas tout. Et si les autres ne sont pas d'accord avec moi, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont tort. C'est que peut-être, moi, j'ai compris quelque chose, l'autre a compris autre chose. On n'a pas forcément tout compris. Moi, quand je considère mon Dieu, mon Seigneur, je sais qu'il a plusieurs facettes. C'est un Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu de justice, un Dieu de sainteté, un Dieu d'équité. Il est père, il est mère, il nous nourrit, il nous guérit, enfin, c'est Dieu. Il est Dieu, il a tous ses attributs et Dieu compose avec tout ça. Et la justice ne couvre pas l'amour ou l'amour, enfin, ça s'imbrique tout ça, lui, il sait. Comment il gère tout ça? Il est Dieu, moi je ne comprends pas grand-chose de tout ça, je ne sais pas comment il fait, mais il est tout-puissant, parce que lui, il connaît tout, il voit tout, il est de toute éternité. Mais moi, je suis un être humain. Donc en tant qu'être humain, comme c'est dit dans la parole de Dieu, nous connaissons en partie, nous pouvons prophétiser en partie, mais par contre, il y a une chose qui reste, c'est l'amour. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, 9. Il y a une chose qui demeure, c'est l'amour. Parce que quoi qu'on fasse, en fait, si on n'a pas l'amour, on sait que ça ne sert à rien. Alors, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de la fin des temps, le retour de Jésus et le réveil qui doit venir dans l'Église. Hein, on en parle beaucoup. Et quand vous entendez parler du réveil dans l'Église, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, des fois, vous savez, quand je fais mes petites cartes ou quand je fais mes sacs, je mets des messages. Alors, j'en écoute plusieurs. Du coup, alors, je prends ce que j'ai à prendre, je laisse ce que j'ai pas à prendre, hein, puisque je ne peux pas tout prendre. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, quand on parle, tous ces gens qui parlent de réveil, ils ne parlent pas comme avant, d'église bondée. Il ne parle pas de grands miracles, il ne parle pas de ces guérisons, tout ça. Il parle d'unité entre chrétiens. Il parle d'amour entre nous. Il parle d'amour pour les autres. Il y a Johanna Exbraya, elle a fait un message où elle dit « Tu aimeras le... » Alors, on sait déjà, on part du principe que Dieu... Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Bon, et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans les derniers temps, Dieu veut réunir son corps. Je crois que c'est une des principales choses que Dieu veut faire avant toute chose, c'est réunir son corps, réunir le corps de Christ dans son amour. Et j'ai lu là un livre... J'ai commencé à le lire. C'est L'offense, l'arme cachée de Satan. C'est de John Bevere. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et il écrit, avant le retour de Christ, les vrais croyants seront unis comme ils ne l'ont jamais été dans le passé. Un nombre infini d'hommes et de femmes sera libéré de l'offense. Ce sera un des éléments principaux permettant au réveil de se répandre. Ça a été écrit il y a longtemps, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais c'est tout à fait d'actualité. Alors être offensé, qu'est-ce que c'est? C'est être blessé, c'est être attaqué dans sa dignité, c'est être froissé, c'est être humilié, vexé. Puis ça crée du ressentiment, ça crée aussi des fois un désir de vengeance, ou même on peut aller jusqu'à se diviser parce qu'on ne comprend pas et on préfère se séparer parce que c'est trop dur. Tout ça parce que des fois on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à lâcher prise, on rumine ces choses sans arrêt. Et donc, Le Seigneur veut nous guérir de l'offense. Parce qu'en fait, si on s'en rend bien compte, on se rend compte que le corps du Christ, il est malade parce qu'il se déchire tout le temps. Parce qu'il y a tout le temps des divisions. Dès qu'on n'est pas d'accord, on se sépare parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et Seigneur, il veut briser ce cœur de pierre. Et c'est là que, oui, Johanna Axbria, elle dit, nous, nous voulons de la puissance, mais Dieu veut de l'amour. Et si nous voyons peu de miracles dans nos églises, ben c'est parce que justement, nous avons trop de divisions. Chacun veut défendre son beefsteak. Et au final, on perd le principal. Et là, donc, il y a le verset Jean 13, 35, qui dit... Voilà. Alors moi j'ai marqué, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. De l'amour les uns pour les autres. Et c'est à ça que les autres vont voir qu'on est les disciples, mais si on se déchire, ils ne vont pas voir. Et donc j'imaginais l'église de Christ, et je disais l'église de Christ, vous voyez, c'est comme un puzzle, un grand puzzle. Je ne sais pas si vous avez fait des puzzles. S'il manque une pièce, c'est foutu. Vous ne pourrez pas revendre votre puzzle, hein, ça ne sert à rien. Et puis c'est moche, hein, y a un trou là. On voit que ça en fait, hein, d'accord. Et on cherche, purée, on cherche partout la pièce qui manque. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce qu'en fait, c'est moche, c'est un trou. Il y a une place qui est vacante. C'est un peu la brebis perdue en fait. Hein. On va la chercher, vous voyez ce qui manque, ce qui manque. Puis il y a aussi, quand vous faites un puzzle, il y a des fois, vous savez, les pièces, ça se ressemble un peu. Et vous ne les mettez pas à la bonne place. Puis vous vous dites, au final, c'est bizarre, il y a une bosse, c'est pas cool, c'est pas très harmonieux. C'est ça, en fait, l'église du Seigneur. C'est juste qu'il faut savoir que c'est Dieu qui a créé le tableau. Et c'est lui qui sait où on met chaque morceau. C'est pas à nous de décider. C'est pas moi qui vais dire, toi, tu vas te mettre là, non. C'est le Seigneur, il a créé un tableau. Alors, on va dire qu'il y a le grand tableau de l'église avec un grand E. Et puis, dans ce grand tableau, il y a des petites portions. Ce sont les églises. Dans les églises, les petites, voilà, qui viennent remplir une partie du tableau. C'est Dieu qui décide. Et nous avons chacun un rôle à jouer. Et Dieu donne à chacun la capacité qu'il faut pour jouer ce rôle-là. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, donc qui nous donne ce qu'il faut. Donc si Dieu me demande à moi d'accomplir une tâche, eh bien moi, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je me concentre sur cette tâche. Je demande à Dieu comment je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Et s'il me dit, j'obéis, je fais ce que le Seigneur me demande. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'a demandé à moi de faire quelque chose qu'il a demandé aux voisins de faire la même chose, hein. On est d'accord qu'on n'a pas tous la même chose à accomplir. Mais ce n'est pas aussi parce que le voisin, il ne doit pas faire la même chose que moi, je vais abandonner ce que Dieu m'a demandé de faire, sous prétexte qu'il ne l'a pas demandé à l'autre. Donc, tout compte fait, ça veut dire que peut-être que ce que je fais, ce n'est pas de Dieu, quoi. Non, ce n'est pas ça. En fait, de la même manière que mon frère ne peut pas me dire que moi, ce que je fais, pour le Seigneur, parce que Dieu m'a demandé quelque chose. Mon frère ou ma sœur ne peut pas me dire ça, c'est pas bon. De la même façon, moi, je ne peux pas lui dire ce que tu fais, c'est pas bon. Le Seigneur nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que moi, quand je fais quelque chose, j'ai pour habitude de me mettre à genoux devant Dieu et de lui dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui veux ça? Est-ce que ça vient bien de toi? Si ce n'est pas toi, dis-le-moi. Si ce n'est pas toi, ferme les portes. Parce que mon but, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu, parce que je sais que si je suis à côté, ça ne va rien porter, pas de fruits, ça ne va servir à rien. Donc, je me mets devant Dieu et je prie. Et si le Seigneur ne m'arrête pas, si le Seigneur me dit continue, ce n'est pas parce qu'on va me dire d'arrêter que je vais arrêter. Hein. Non, je continue. Et vous savez, j'ai toujours appliqué cette prière à mes enfants. C'est-à-dire que moi, ma prière, ça a toujours été, Seigneur, je veux qu'ils fassent ta volonté. Je veux qu'ils marchent dans tes voies. Je veux, Seigneur, qu'ils obéissent à ce que toi tu veux pour eux, les œuvres que toi tu as préparées d'avance pour eux. Et bien, quand Jérémie est venu me parler de son projet, vous savez, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Vous savez, c'est. Moi, je suis dans mes quatre murs là-bas à Corba, je n'ai pas fait des grandes choses, voilà. Et j'ai dit, waouh! J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas dit, bénis ce projet. Je n'ai pas dit, ouais, tu as raison, vas-y, fonce. Je me suis mise devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, Seigneur, que ta volonté se fasse. Si ce n'est pas ta volonté, arrête-le. Si ce n'est pas ce que tu veux, arrête-le. Et j'ai plusieurs fois prié et supplié Dieu en disant, si ce n'est pas toi, arrête-le. Parce qu'au début, je ne comprenais pas tout. Et puis après, j'ai réalisé. J'ai réalisé quelque chose, c'est que Dieu avait mis un projet sur son cœur. C'était le projet que Dieu avait mis sur son cœur. Et il lui avait donné la capacité de le mener à bien. Et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs, au fur et à mesure. J'ai dit, le Seigneur a donné à Jérémie un projet qu'au début je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai compris parce que Dieu m'a parlé, éclairé. Mais j'ai dit, j'ai vu que c'était le Seigneur qui avait mis ça dans son cœur et qui l'avait placé et qui lui avait mis autour de lui des personnes pour l'aider, pour l'entourer. Et je savais une chose, que si c'était Dieu qui avait mis ce projet, rien ni personne ne pourrait arrêter le projet si ce n'est Jérémie lui-même. Et tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, on est tous précieux devant notre Dieu. Je ne peux pas juger le voisin parce qu'il est différent de moi. Je ne peux pas dire, mais celui-ci, il fait tout de travers, il fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, il ne fait pas comme moi, il ne rentre pas dans ma petite boîte à moi. Moi, des fois, je suis comme ça, hein, oula. Oh, celui-ci, il est bizarre, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben non. Alors, il faut savoir que chaque église, elle est précieuse pour Dieu. Parce que chaque église a une identité propre. L'important, en fait, c'est d'être toujours fixé sur Jésus. L'important, c'est que notre but final, c'est toujours la gloire de Dieu. L'important, c'est que rien ne nous détourne de Jésus, c'est lui. C'est pas le pasteur de super spirituel ou qui fait des super, vous savez, voyez, des miracles, des machins, des trucs. Oui, c'est bien, gloire à Dieu, merci pour ces hommes de Dieu. C'est pas eux qui sont importants parce que le pasteur il peut, ou le grand homme de Dieu il peut se casser la figure. Par contre, Jésus, il y tombera jamais. Donc, en fait, il faut toujours se redire que chaque église a une identité propre, avec des frères et des sœurs qui ont une identité propre et des dons différents. Je ne sais pas si vous écoutez sur les réseaux sociaux, vous avez du style, il y a des prophètes, hein, et puis eux, ils défendent leur ministère de prophète. Normal, ils sont prophètes, ils ont cette onction. Et puis, il y a ceux qui défendent le ministère de la guérison. Vous avez Audrey Mac, vous ne pouvez pas elle sait tout sur la guérison. Elle a tellement étudié le truc et elle guérit des malades. Tout ça, c'est son ministère. Et puis, vous avez d'autres qui... vous prenez Massicotte, qui vous parle d'Israël, qui connaît tout. Et puis, vous avez... quand vous parlez avec Luc Maroni, il sait tout de ce qui est de l'économie de Dieu, de l'impact de l'Église dans la société. Il connaît tout ça. Ils savent plein de choses. Mais c'est leur ministère. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont mieux que d'autres, parce qu'en fait, ils ont une partie, mais ils n'ont pas tout. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir tout. Parce qu'en fait, on est des êtres humains, que l'Église, elle se fait, hop, hop, ça s'imbrique les uns dans les autres, et que c'est le corps de Christ qui agit dans le monde et non pas une personne. Donc vraiment, voilà, le Seigneur m'a rappelé ça. Parce que des fois, on pourrait se dire, oui, non, mais c'est vrai, il a raison, lui, il faut se focaliser sur le retour de Jésus. Mais l'autre, il dit qu'il faut faire... Et puis l'autre, Seigneur, toi, tu veux quoi que moi, je fasse? Voilà, parce que c'est ça, en fait, au final. Les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, tu veux quoi, toi, Seigneur, pour moi? Et donc, on va mettre le verset, là, 1 Corinthiens 12, 5... S'il te plaît. Alors, Donc, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. On est d'accord? Donc, moi, à ma petite échelle, eh ben, je ne vais pas essayer de critiquer le ministère d'un tel. Je ne prends pas tout, pas forcément tout quand j'écoute un message. Je prends ce que le Seigneur me donne parce que pour un besoin particulier que j'ai à l'instant T. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on écoute un message, bien souvent, on en oublie les trois quarts. Mais il y a une chose qui vient nous nourrir. Et c'est ça qui suffit, en fait. On s'en fiche si tout n'est pas super. Mais il y a une chose qui vient là, à ce moment-là, pour nous nourrir. C'est ce dont on avait besoin à cet instant T. Donc, je sais que les hommes ne sont infaillibles, ne sont pas infaillibles, pardon. Et je sais aussi que Dieu m'a donné un cerveau pour réfléchir, hein, et son Saint-Esprit pour m'instruire, pour me conduire. Alors, si tout est peut-être pas forcément juste, parce que celui qui a parlé n'était pas infaillible, mais si on vient à la lumière du Saint-Esprit, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je retienne dans tout ça? De quoi tu veux me parler ?» Ben, je pense que Dieu nous aide. Vous savez, moi, pendant des années, ça fait au moins plus de 20 ans, je prie souvent, Seigneur, augmente ma sagesse. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des personnes, je me souviens, il y avait des gens dans une église, ils étaient comme ça. Ils croyaient avoir tout compris. Et des fois, ils peuvent, avec une parole, détruire une vie. Et c'est terrible. Et je dis, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas ça. Moi, je suis italienne, hein, je suis un peu sanguine. Hein. Donc, je peux démarrer au quart de tour, hein, si jamais, des fois. Vous savez, je garde, puis d'un seul coup, pouah, ça explose. Et puis aussi, quand on dit quelque chose, des fois, je me braque aussi. Vous savez, dans ma tête, je me braque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je retourne vers Jésus et je dis, Seigneur, c'est quoi là? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis obligée de me réaligner avec le Seigneur. Alors, je ravale un peu ma fierté. Et puis, je dis, le Seigneur me dit, tu vois là, toi, tu as un peu raison, mais l'autre aussi, il a un peu raison. Puis, tu as un peu tort, il a un peu tort. En fait, c'est rare quand c'est tout le monde qui a tout raison. Hein. C'est très rare, en fait, ça arrive, hein. Ça arrive, hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment à côté de la plaque, hein, je ne veux pas dire. Mais en principe, si on a affaire à des enfants de Dieu qui sont convertis et qui ont leur cœur prêt à servir Dieu, ils ont l'esprit, comme moi j'ai l'esprit. Et alors même si des fois on n'a pas tout à fait tout raison, non, on n'a pas aussi tout à fait tout tort, en fait. Ça serait tellement bien si tout pouvait être tout blanc ou tout noir. Mais dans la parole de Dieu, vous avez remarqué, ce n'est pas tout blanc et tout noir. Dieu n'a pas écrit tout, hein. Il n'a pas laissé des directives hyper nettes par rapport à l'Église de comment on fait, comment on dirige un culte, comment on fait ceci, comment... ça reste quand même... Enfin, c'est pas... Mais par contre, le Seigneur, il nous demande d'avoir de la sagesse. Et là, on va mettre Jacques 3, 13-18. Et ça, c'est un passage qui, depuis longtemps aussi, m'a beaucoup parlé. Parce que des fois, vous savez, quand on veut essayer de défendre notre beefsteak, quand on veut essayer de partager sur une théorie dans la parole de Dieu, et puis qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que, comme je disais, c'est pas tout blanc et tout noir. Et donc, Jacques dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite ?» avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Vous savez, on est des frères et sœurs et moi je vous aime tous. Et si je fais mal à quelqu'un, ça me fait de la peine parce que je me rends compte que je n'ai pas fait ce que le Seigneur aurait voulu que je fasse. Et souvent, je suis obligée de me raligner avec le Seigneur, c'est vrai, comme je vous ai dit. Revenir au pied de Jésus et dire, Seigneur, tu vois là, ça fait mal, je ne suis pas d'accord avec ça, mais toi, tu dis quoi? Donc ça, c'est aimez-vous les uns les autres dans l'Église. C'est ce que le Seigneur veut pour nous dans l'Église. Il faut aussi savoir qu'on a quand même la grâce de Dieu. Hein. C'est que le Seigneur, il reconstruit. Hein. Si on se trompe, hein, ben heureusement que Dieu, il nous ratatine pas. Hein. Mais il est là et il nous relève, il nous dit, ben voilà, je sais pas si vous voyez là, les mamans chiens là, qui ont un petit chien, puis l'autre, il part de travers et hop, un petit coup de patte, remet. Ça, c'est Dieu avec nous. Il use d'amour, il use de grâce. Et il nous remet dans le droit chemin pourvu qu'on veuille faire les choses pour sa gloire. Parce que si on veut faire pour nous, bah, il nous laisse nous dépatouiller jusqu'à ce qu'on revienne vite vers lui en disant au secours, Seigneur, je me suis plantée, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il ne nous laisse pas tomber. Quand on revient, il vient, lui, il nous ramène aussi. Hein? Donc des fois, on revient tout de suite et des fois, on met plus de temps. Mais bon. Donc ça, c'est l'amour entre frères et sœurs. Mais après, moi, je voudrais aller maintenant un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde? Parce que là, on est dans l'Église, dans nos quatre murs, mais on n'est pas tous les jours dans l'Église. Hein. On est bien d'accord que, même, je dirais que les trois quarts du temps, on est en dehors. On est dans le monde. Et qu'est-ce que Dieu veut? On est appelé à être sel et lumière. On est appelé à être les représentants de Christ sur la terre, comme tu as dit. Alors le sel, eh ben, en fait, c'est tout ce qui représente le côté matériel, le sel. En fait, c'était Luc Maroni qui... Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette association sel. Ce sont des aides... De tout ce qui est de la mission, mais tout ce qui est matériel. Et puis, la lumière de l'esprit, c'est de conduire, éclairer le chemin qui mène à Christ. On doit être sel et lumière. Alors, je me suis posé une question. Parce que je disais, alors, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je dis, Seigneur, alors, qui est-ce que je dois considérer comme mon prochain? Et tout le monde connaît la parabole du bon samaritain. Bah, c'est cette question que le docteur de la loi pose à Jésus. Et Jésus, il répond en citant une parabole. Et vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il sait qu'à l'époque, les docteurs de la loi, justement, quand ils parlaient entre eux, parce qu'ils se posaient la même question, et eux, ils en avaient déduit qu'il fallait aider que les juifs, que ceux qui pratiquaient la même religion. Et c'est pour ça que Jésus explique cette parabole du bon samaritain, et à la fin il dit, à votre avis, qui a été le prochain? Et le docteur de la loi répond, c'est celui qui a aidé. Alors, moi, je voudrais vous partager dans le sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5, 43-48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça, donc le Seigneur nous appelle à aimer tout le monde. Et en fait, je vais vous lire quelque chose. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Je sais plus. Enfin, je crois que c'était avant le Covid. Alors, c'est pour tout vous dire, c'est que... Et ça m'a... Alors, quand je lis des livres, il y a des fois, tout ne reste pas. Mais ça m'avait tellement percuté. C'est resté. C'est resté gravé dans mon cœur. Donc, c'est le livre, c'est Claude Hood. C'est le pasteur de l'église Nouvelle Vie au Canada. Hein. Donc, il raconte, il explique, et donc, il va pour une conférence. Il va prêcher. On lui a demandé d'aller prêcher à une conférence de pasteur dans une grande église. Et il dit qu'en fait, à ce moment-là, il fait entre moins 30 et moins 40 à l'extérieur. Il est gelé quand il arrive. Il sonne à la porte. Rien que le temps d'attendre qu'on vienne lui ouvrir, il est congelé. Et voilà ce qu'il explique. Il dit, alors que j'entrais dans l'édifice, une femme surgit de nulle part. Elle tenait par la main deux enfants, un petit garçon et une petite fille. À mon horreur, je constatais qu'ils étaient tous les trois vêtus de petits blousons et de bottes de printemps, ne portaient ni gants ni chapeaux. Je n'oublierai jamais le visage de cette dame latino-américaine. Elle était terrorisée et criait en tremblant de froid. « On a couché dehors !» Il nous a mis dehors. Mon mari est fou et il nous bat. On vient d'arriver de notre pays, je ne sais pas où aller. Dites-moi où aller. L'homme qui m'avait ouvert la porte était de marbre et dit, sortez d'ici, on ne peut pas vous aider. On ne peut rien faire pour vous, c'est pour les pasteurs. Par-dessus son épaule, je voyais tous les autres confrères qui étaient arrivés et mangeaient leur croissant en dégustant leur café. La femme et les enfants pleuraient et avaient des gelures sur le visage. Je suis encore hantée par le souvenir des taches blanches sur leurs joues et leurs grands yeux bruns effrayés. Le portier s'impatientait et essayait de se débarrasser d'elle. Soudain, il cracha des mots qui résonnèrent dans mon esprit comme si le temps s'était arrêté. Ceci ne me quitterait plus jamais. Je promis à Dieu que je les partagerais chaque fois que je m'adresserais à des leaders d'église. Maintenant, par ce livre, ils feront le tour du monde. Le portier de l'église saisit cette femme par les épaules, la regarda dans les yeux, l'interrompit et, levant le ton, il lui dit « Madame, madame, regardez-moi, écoutez-moi, nous ne pouvons rien faire pour vous, nous sommes une église. » Vous voyez ? Et ça m'a scotché, j'ai dit « Mais... Et comme ça, on fait ça, Seigneur. » Après, j'ai lu un peu plus loin, je vous partage ça aussi. Donc, c'était au début que Jean-Claude Hood allait construire son église, enfin, débuter son église, et il rencontre le pasteur David Wilkerson, que tout le monde connaît. Et il lui dit, comme ça, il lui dit, « Pasteur Dave, nous débutons notre église bientôt. Avez-vous une clé à me donner, un conseil à me partager ?» Bref, s'il y avait une chose que je devrais faire ou que je devrais savoir, quelle serait-elle selon vous ? Je fus estomaquée par sa réponse. Il s'arrêta net et il commença à dire avec une intensité inouïe et une passion brûlante. Tu veux savoir quelle est la clé ? Est-ce que tu veux vraiment le savoir ? Plusieurs autres m'ont demandé cela. Ils ne m'ont pas cru. Oh, ils m'ont écouté. Mais ils ne l'ont pas mis en pratique. Ou ils ont essayé un peu, puis ils se sont découragés. Veux-tu vraiment le savoir ? Je vous avoue qu'à ce moment précis, je n'étais plus certain de vouloir savoir. Mais il était trop tard. Alors je lui répondis d'une voix incertaine. Oui, j'aimerais bien le savoir. Tout à coup, son expression et son ton changèrent. Tout son visage s'illumina comme un enfant qui connaissait un secret. Il s'exclama, « Trouve les pauvres, donne aux pauvres, aide les pauvres, mets ton cœur et ta passion à aider les gens qui ne pourront jamais te le rendre. » Puis après une seconde de pause et avec une joie absolue, il ajouta, « Et alors regarde bien comment Dieu te bénira. » C'est Quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu ça, j'ai toujours gardé dans mon cœur parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Moi, je crois que Dieu aime les hommes qu'il a créés. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix. Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans 1 Timothée 2, 3, 4, il est écrit, donc c'est quand Paul dit à Timothée qu'il faut prier pour tous les hommes, pour les autorités, pour plein de choses, et il dit, cela est bon et agréable devant notre Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment Dieu fait tout ça. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur veut qu'on aime. Et dans Acte 17, versets 26 à 27, Paul dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Donc maintenant, nous, on est censé représenter Dieu sur la terre, on est censé porter, on est des porteurs de Christ, on est des ambassadeurs de Christ. Ces gens qui cherchent Dieu en tâtonnant peuvent tomber sur nous. Nous devons nous efforcer de représenter du mieux possible le Seigneur Jésus sur la terre. Nous devons être ses ambassadeurs de Christ. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu sur la terre? Il a apporté le salut, il a apporté la délivrance, il a apporté la guérison, il a apporté de la nourriture, il a comblé tous les besoins physiques, spirituels. Donc, nous, en tant qu'Église, chacun dans son domaine de prédilection, eh bien, on doit accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Pas tous la même chose, chacun selon ce que Dieu lui a donné de faire. Dieu crée le vouloir et le faire. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour aller toucher. On sème et après, c'est Dieu qui récolte. Mais quand on sème, hein, on ne sait pas ce que Dieu va récolter. Hein. Ça, c'est son problème. Et voilà, je voulais vraiment vous exhorter à ce qu'on puisse recevoir l'amour que Dieu a pour nous, mais aussi le redonner. Parce qu'en fait, ce n'est pas que pour nous. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà. Soyez bénis. Vraiment, soyez bénis.